Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible. Nous allons partager deux textes qui vont, nous enseigner ce matin sur certaines réalités pratiques, parce que c'est ça le but. Alors, première lecture dans le livre des Hébreux, si vous le voulez bien, au chapitre 9 et au verset 28, c'est la fin du chapitre 9. Alors, Hébreux, je répète, chapitre 9, verset 28, et nous allons mémoriser une pensée. De même que Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors, on retient cette expression. Ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous allons maintenant passer à un second texte dans Hébreux, chapitre 2, peut-être plus connu celui-ci, verset 5. Il est dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et qui demeurent. Hein. Jésus est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Existant en forme de Dieu, nous avons souligné la divinité de Jésus. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. C'est ce qu'on appelle l'incarnation de Jésus, l'incarnation de Dieu. Et il apparut comme un véritable homme et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, nous allons rentrer dans une considération. Vous avez certainement encore en tête, parce qu'on l'a chanté et rechanté, ce petit cantique, « Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière et elle m'a racheté. » On pourrait dire que c'est véritablement le résumé du salut, de notre salut. Pour ceux qui l'ont attendu, ceux qui l'attendent encore et ceux qui l'entendront autant que les temps ne sont pas arrivés de son retour. Né de la poussière et de l'éternité, je vais vous parler de Noël. D'accord ? Vous êtes d'accord ? Voilà. Mais ça me fait plaisir, hein, franchement. Je voudrais simplement essayer de vous donner en mémoire ou de rappeler à votre mémoire le plan divin, la perspective de Dieu pour notre salut et depuis des siècles et des siècles. Le plan divin en perspective. D'abord, je le rappelle brièvement, hein, c'est simplement pour nous cadrer en quelque sorte. La Bible nous parle, et je vais le répéter, la Bible nous annonce, nous informe que Christ a eu une préexistence. Oui, une préexistence, c'est tout l'Ancien Testament, avec des préfigurations, avec des symboles, tels que par exemple l'ange de l'Éternel. Et puis bien d'autres choses comme cela, hein, naturellement. La préexistence de Christ. Ensuite est venu le temps révélé par le Nouveau Testament, cette fois, de l'incarnation de Dieu dans la personne de Jésus. Alors il y a un terme particulier, je ne vous demande pas de le retenir, mais c'est intéressant quand même de le savoir, ça s'appelle la kénose. Dans Philippiens, c'est ce que nous avons lu, regardez, il est dit, mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il existait en forme de Dieu et il s'est fait lui-même homme. C'est ce qu'on appelle donc la kénose, je vous l'ai dit. Et cette période de l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie de Christ qui nous est rapportée à travers les évangiles. C'est la crucifixion de Jésus, mort pour le monde entier. Et c'est également la résurrection. La mort, eh bien, a été vaincue. Ça, c'est l'incarnation de Jésus. C'est simple. Ensuite, il y a eu l'ascension. L'ascension, c'est tout est accompli. Tout a été fait parfaitement. Si vous croyez à la grâce de Dieu, vous êtes sauvés. Et je vous le rappelle pour ceux qui pourront en douter parmi nous ce matin. Vous êtes sauvés. Il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Et Jésus peut remonter au ciel. Il est venu pour accomplir une mission. Il l'a accomplie. Et en montant au ciel, c'est la signature qu'il nous laisse. Tout est accompli. Ensuite, alors là, nous allons rentrer dans quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui fait partie des promesses et qui est une réalité. C'est ce que l'on appelle le retour de Jésus-Christ. L'eschatologie, en termes théologiques. Mais bon, on met ça de côté. Retour de Christ. C'est-à-dire qu'après l'humiliation de Jésus, de Dieu venu en chair à travers la personne de Jésus, après l'humiliation, il y a la glorification. Et Jésus va revenir. Je vous ai préparé une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs places dans la maison de mon Père. Alors, c'est le retour de Jésus-Christ et se manifestera par l'enlèvement de l'Église. Rassurez-vous, si vous êtes fidèles, vous serez enlevés avec le Seigneur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en un clin d'œil, voilà, c'est ce qu'il nous est dit. Et ça, c'est la premier retour, en quelque sorte, en deux temps, deux périodes. Il y a après la parousie. La parousie, c'est tout simplement, ça veut dire avènement. Avènement en gloire, en puissance, où Jésus va se manifester comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui vient sur tout l'univers, qui vient dans le monde des hommes, avec ses saints et avec ses rachetés, c'est-à-dire l'Église. Il y revient. Alors, première apparition, c'est dans les airs. La deuxième, c'est sur la terre. Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Donc, sur la terre. Après cela, alors je ne vous dis pas la grande tribulation, l'antéchrist, etc., etc., je passe très vite. Il y a le millénium. Alors, le millénium, c'est une période de 1000 ans. C'est pas trop difficile, 1000 ans. Avec des caractéristiques de paix, de bonheur, mais ça ne sera plus la grâce, ça sera la loi qui va revenir. D'accord ? La loi. C'est-à-dire que ça sera certainement très strict et très sévère, absolu. Et Jésus règnera avec, il est dit, avec les anges, et il règnera aussi avec nous. Vous en rendez compte un peu ? Et ça ne va pas durer un jour. Ça dure 1000 ans. Donc, le mal, finalement, il y aura une victoire finale sur la mort, sur le mal, et ce sera le jugement dernier. Pas pour nous, rassurez-vous. Pas pour nous, pour le diable, pour les démons, pour l'antéchrist, pour le faux prophète, etc., etc. Et ce sera le jugement dernier pour eux. Ce sera la seconde mort. Nous, nous n'aurons qu'une seule mort, la mort physique. Mais nous vivrons éternellement avec Jésus. Par contre, tous ces gens, qu'on les appelle, je ne veux pas donner de nom, mais tous ces gens qui ont détruit la terre, qui ont fait du mal aux autres, qui ont véritablement, sont des tyrans, tout ce que vous voulez, qui ont fait le mal, alors ça sera le jugement à ce moment-là. Et ils seront finalement condamnés avec tous ceux qui les ont inspirés d'en haut, c'est-à-dire les puissances occultes. Voilà. Victoire finale. Et nous en arrivons après au règne éternel de Christ dans le ciel, millénium sur la terre, et Jésus à ce moment-là, après avoir réglé tous les comptes avec les impies, avec les méchants, avec les destructeurs, avec les sanguinaires, avec tout ce que vous voulez, le diable y compris, ils vont se retrouver au chaud. voyez ce que je veux dire, hein? Bon. Et ça sera le règne éternel de Christ dans le ciel, et nous y compris, avec un corps incorruptible, avec l'immortalité, avec la sainteté, et tout parfait. Tout est parfait. Alors voilà le programme de Dieu pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Est-ce que je vous rassure ce matin ? Ça, c'est le plan qui a commencé à Bethléem, dans l'existence finalement, dans notre monde à nous, et qui se termine au tombeau. Mais après le tombeau, il y a autre chose pour Jésus, il est ressuscité. Et nous aussi, nous allons ressusciter. Alors permettez-moi simplement de rappeler quelques conditions de la naissance de Jésus. Parce que bon, on en parle, hein, c'est quand même la proximité, c'est bien d'en parler. Parce que la venue de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, c'est une bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise. Hein. Dans le monde dans lequel on est, c'est une bonne. Tout a commencé dans une étable des plus misérables. Les Juifs attendaient leur Messie dans un palais, ou au temple, je ne sais quel, en effet, ou je ne sais quel édifice prestigieux, mais ça s'est passé de cette manière, l'étable. Il est né sur une couche de paille qui servait finalement aux animaux. Et là, il y a une adolescente avec un bébé dans les bras qui cache une vérité transcendante. Parce que derrière cette belle histoire, que certains, que d'aucuns considèrent comme une légende, considèrent comme, eh bien là, un moment dans l'année où finalement, c'est la famille, et c'est bien, hein, il n'y a pas de problème, et puis avec les enfants, etc. Mais c'est pas ça. Hein. La véritable signification, elle est au-delà. Et on peut dire, parce que nous allons en parler d'ici quelques instants, et Jésus dira, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Il a vu Dieu. Il voit le Père qui est dans le ciel, à travers mon humanité, à travers ce que je suis comme vous, finalement, avec des bras, des jambes, et puis tout ce qui comporte. Et il y a une promesse qui s'attache à cette belle parole de Jésus, « Celui qui m'a vu, a vu le Père, parce que mon royaume n'aura pas de fin. » C'est ce que je vous ai expliqué il y a quelques instants, quand nous avons fait eh bien, l'énumération des différentes phases de la venue de Jésus, du début jusqu'à la fin, jusqu'au règne éternel, en quelque sorte. Alors, qui est cet enfant ? Parmi des milliards d'enfants, hein, il y en a certainement des milliards encore aujourd'hui, d'une manière très discrète, il se présente comme le Sauveur, le Seigneur, et le Roi en majesté. Et pourtant, c'est un enfant déshérité, c'est un enfant qui est comme les autres. Il n'a rien de plus que les autres, il a certainement moins que les autres, de classe favorisée, je ne sais pas. Et il nous est simplement dit dans Philippiens qu'il s'est humilié lui-même. Il aurait pu rester dans les palais d'ivoire du ciel. Non, il est venu dans ce monde, dans ce bas monde. Et c'est là où justement nous considérons que la nature et l'ordinaire dévoilent l'extraordinaire qui est descendu du ciel. C'est-à-dire à travers la personne de Jésus, sans péché, pur, la sainteté, c'est en quelque sorte, nous pourrions dire, la perfection qui fleurit sur un lit de paille rebutant de souillure. C'est comme ça, pour bien montrer que finalement ce Dieu du ciel, créateur de l'univers, est descendu véritablement au plus bas. Et quand je dis que la venue de Jésus, elle fleurit, parce que c'est ça, hein, c'est ça réellement. Alors cet enfant, comme nous l'avons dit tout à l'heure dans le rappel de Cantique, eh bien il a des vêtements d'éternité, nés de la poussière et d'éternité. Alors j'ai vu la lumière, ce qu'il s'agit de voir. Et elle m'a racheté, c'est le salut. Et là il y a des phénomènes qui se passent, il y a une légion d'anges qui chantent pour un auditoire tout à fait particulier et pastoral, nous pourrions dire, d'humbles bergers qui contemplent les étoiles au cœur de la nuit. Cependant, il y a quand même un contraste qui apparaît, un contraste saisissant. C'est qu'en même temps de ce cliché, de cette photographie, nous pourrions dire, hein, ça n'existait pas à l'époque, mais hein, de ce qui se passe à Bethléem, eh bien, dans la capitale d'Israël, il y a les gens de la cour, il y a naturellement, eh bien, à la cour d'Hérode, toutes sortes de gens qui sont complètement insouciants, complètement détachés, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, aux choses de la terre, et qui ne pensent qu'à leur promotion. Ça n'a pas changé, hein, croyez bien. Alors il y a ces personnages, les gens de la cour. Il y a les courtisans qui sont là pour se faire voir, pour être vus et se faire voir. Hein, on peut le présenter de cette manière. Et puis il y a une troisième catégorie, ce sont les gens, ce sont ceux de la synagogue bien pensante. Ah, les docteurs de la loi, les pharisiens, les sadducéens qui sont là, eh bien, oh, ils sont pas malheureux. Hein. Ils sont repus de tout ce que l'on peut imaginer. Ils ne souffrent pas des conditions dont d'autres souffrent par centaines et milliers de leur temps. Hein. Alors, cette synagogue, c'est-à-dire tous ces gens religieux, et etc., nous l'avons dit, eh bien, sont loin de s'imaginer que le roi du monde, leur Messie, pour des Juifs, en quelque sorte visite la terre. Parce que s'ils avaient une petite idée de la venue de leur Messie, c'est pas comme ça qu'ils le voyaient. Probablement un roi qui serait sur un cheval, emblème finalement eh bien, de la puissance et de l'autorité, qui serait né peut-être, s'il devait passer par la naissance, eh bien probablement dans un palais royal ou autre chose. Et ça, c'est ce qu'ils pouvaient s'imaginer. Même l'aubergiste de Bethléem, eh bien, on peut peut-être dire de quelque chose de lui, ne se doute même pas qu'il vient de mettre à la porte. Oui, parce que c'est comme ça, vous connaissez les textes, hein, naturellement. L'espérance des hommes, pour des raisons d'intérêt prosaïque, c'est de gagner de l'argent, tout simplement. Ah, il faisait payer ses chambres d'hôtel, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais comme il n'avait pas d'argent, Marie et Joseph, ils se sont trouvés là au plus bas. Hein. C'était moins qu'un Formule 1. Hein. Bon, enfin. Que je ne sais pas si vous étiez dans les Formule 1, c'est pas de la paille. Hein. Quoi qu'il en soit, je vais avoir des ennuis, moi, si ça continue. Et nous voyons que la vie continue pour ces gens-là. Aucun problème. La vie se poursuit. Et elle se poursuit dans l'ignorance, bien qu'ils savent quand même. Elle se poursuit dans le désintéressement total. Ainsi, ils manqueront l'arrivée divine de leur Messie. Voilà. Alors, il y a peut-être quelque chose à dire autour de cela. C'est qu'on l'avait tout bonnement oublié. Oui, l'arrivée messianique de leur Messie. Enfin, ça va, excusez-moi, c'est un... Voilà, l'arrivée depuis si longtemps qui avait été annoncée aux Juifs. Et c'est vrai qu'on avait mis ça en oubli. C'était devenu une légende. C'était devenu une histoire. C'était devenu quelque chose qui faisait partie de la vie religieuse, et puis c'est tout, hein, ça n'allait pas plus loin. Comme on nous a raconté, souvent dans le fait religieux autour de nous, la manière dont on a été élevé religieusement, eh bien qu'il y a bien des choses qui appartiennent, non pas à la vérité, non pas à la pensée de Dieu, non pas au plan de Dieu, mais à toutes sortes de choses qui font rêver pour essayer d'atténuer peut-être les misères de notre temps. Noël en fait partie, hein, avec tout le décorum qu'il peut y avoir. Alors, tous les Israélites, quels qu'ils soient, eh bien, le savaient, mais on ne l'attendait plus. Et c'est vrai, Jésus est venu, comme on est en train de le dire, à Noël, naturellement. Mais est-ce que l'on croit encore, nous, dans nos églises évangéliques, baptisées du Saint-Esprit, qui illumine la parole de Dieu, qui est la vérité, est-ce qu'on attend encore son retour? Est-ce qu'on attend la suite que je vous ai en quelque sorte, rapidement, eh bien, décrite il y a un instant? Est-ce que on l'attend? Et par-delà les prophéties, par-delà les promesses de l'Écriture, qui ont été égrenées pendant des siècles et des siècles, vous savez que nous avons une chance extraordinaire. Nous avons l'Ancien Testament et nous avons aussi le Nouveau Testament. Et le livre est scellé maintenant. Alors, il y a certains prophètes qui se disent, mais attendez, c'est pas tout à fait fini, il y a encore des choses à rajouter. Non, c'est fini, c'est terminé. Dieu a donné toute la connaissance de son plan, et on sait, j'ai essayé de le mettre un petit peu en tableau il y a un instant. Et tout cela, est-ce que nous n'assistons pas de nos jours, dans notre monde d'aujourd'hui, 2000 ans se sont écoulés, hein, depuis la venue de Jésus à Bethléem, à cette défection d'espérance, c'est une remise en cause, à cette défection de la foi, cette défection, et ce monde qui, quelque part, l'attend et le cherche avec beaucoup de désinvolture, eh bien, c'est quelque chose qui nous interpelle, c'est quelque chose qui peut nous laisser réfléchir. Et nous allons faire la comparaison entre le monde du temps de Jésus et le monde qui est le nôtre aujourd'hui, hein. Ouais, défection de foi, et nous l'attendons encore. Vous savez que les Juifs attendent encore leur Messie qui est venu il y a 2000 ans. Ils l'attendent. Et il est venu. Et vous savez ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont crucifié. Et est-ce que nous n'aurions pas quelquefois un petit peu des allures, hein, ou des pensées qui ne sont pas dans la pensée de Dieu, où nous attendons ce que Dieu nous a déjà donné, mais nous ne le voyons pas. Et nous ne voulons pas faire non plus d'efforts pour le voir. Parce que peut-être que ça nous dérangerait, comme le Messie, enfant, et après son ministère, combien Jésus a-t-il dérangé ceux qui, quelque part, eh bien, priaient pour le voir et le connaître et véritablement l'accueillir, et ils ont fait exactement le contraire. Exactement le contraire. Et là, je voudrais donner aussi encore une notion de réflexion. C'est la distance dans l'espace et la densité que j'ai nommée étouffante du fait religieux, alors que quelques kilomètres font la triste différence de Jérusalem à Bethléem, 10-12 kilomètres. Il y a tous ces gens-là qui sont en train de graviter autour du roi, autour de cette société bien pensante et même religieuse, peu importe. Il y a 12 kilomètres entre les deux villes, en quelque sorte. Et nous avons besoin de faire une comparaison maintenant avec ce qui va venir. C'est-à-dire, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a cette comparaison. C'est la longue route séparant la Mésopotamie de la Judée. Alors, il y a de l'histoire et de la géographie aujourd'hui, hein, au menu. Hein. Ouais. Eux, ils sont à 10 kilomètres et les autres sont à 500, 600, 700 kilomètres. Où se situent finalement eh bien, les personnages qui vont apparaître. Et cela illustre bien que les plus proches sont demeurés sourds et aveugles, alors que les plus éloignés regardent au ciel et se laissent conduire par une petite étoile. Faut le faire, hein ? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Eh oui, on pourrait dire que les mages, bah, ils se sont quand même... Hein, creuser la tête pour faire l'itinéraire, pour voyager de jour et de nuit avec certainement là leur bête de somme, hein, et ça a dû durer des jours et des jours, hein, parce que le pas du chameau, hein, ça, il marche doucement sur le sable, hein, et ça pouvait peut-être plusieurs semaines, hein, c'est possible. Dans le palais d'Hérode, eh bien, les spécialistes patentés de la loi, ceux qui finalement, eh bien, je vous ai donné les noms, hein, pharisiens et tout ce qui va avec, hein, eh bien, ce sont ceux que l'on peut dire, ils croient à quelque chose, naturellement. Et nous voyons que ils croient surtout tout savoir. Ce qui les dispense, eh bien, de se creuser la tête, mais d'une manière spirituelle, religieuse, oui. Mais au niveau spirituel, non, ils veulent pas aller plus loin. Et en plus, ce sont des notoriétés puisqu'ils enseignent à la populace, ils enseignent au peuple ce qu'ils ne croient pas eux-mêmes et ce qu'ils ne croient plus. Ça, c'est quelque chose. C'est un peu récurrent, hein, cette histoire de religion. Parce que beaucoup de choses sont dogmatiques, beaucoup de choses sont rituelles, beaucoup de choses sont comme ça, et c'est bien cadré, c'est bien haut, et il n'y a pas autrement. On ne peut pas penser autrement, on ne peut pas croire autrement. Il ne faut surtout pas chercher autrement que ce qui nous est dit, parce que c'est un diktat, en quelque sorte. Diktat de la conscience. Et c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. Rien n'a changé. Rien n'a bougé dans ces... Et ça, c'était déjà, eh bien, les signes précurseurs de ce que, finalement, nous avons encore aujourd'hui. Alors, tous ces gens-là ne croient plus, ne croient pas. Leur cœur stérile est depuis longtemps imperméable à la vérité. La vérité prophétique d'un sauveur tout-puissant qui pardonne et qui est compatissant. Eh oui, c'est ça justement le problème. Et Jésus va faire la démonstration lorsqu'il deviendra un homme. Il guérira les malades, il ouvrira les yeux des aveugles, il fera entendre les sourds, il fera marcher les paralytiques. Parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est rempli de pardon, de compassion pour les souffrances du monde, les souffrances du peuple d'Israël, dont les autres n'en ont rien à faire parce qu'ils ne souffrent pas. Enfin, s'ils souffrent en tous les cas... c'est pas tout à fait le même monde. Hein. Et le monde n'a pas changé, c'est les mêmes réactions que nous avons encore aujourd'hui. Alors, ils ne se sont même pas déplacés à Bethléem, de quelques kilomètres de Jérusalem, parce que chacun ne veut même pas s'en donner la peine, il ne veut même pas s'en donner la réflexion, parce que ça dérange la réflexion. Et par contre, les mages, eux, ces hommes de l'Orient, venus de l'Orient, marchent jour et nuit dans le désert, mus par l'intuition, oui, on peut dire peut-être le mot, hein, et l'inspiration de l'esprit qui brûle dans leur cœur. Mes frères et sœurs, comment nous nous sommes convertis? Parce qu'on nous a dit qu'il y avait un centre évangélique? Parce qu'on nous a dit que la Bible existait? Non, c'est parce que c'était l'un et l'autre peut-être à la fois qui ont leur raison d'être. Et c'est parce que nous avons senti à un moment donné l'appel de Dieu au fond de nous-mêmes. Ouais. Vouloir en savoir davantage. Sortir des carcans de la religion, de notre religion. Et d'aller beaucoup plus loin. Et c'est bien le coup de balai que Jésus a donné dans la fourmilière. Quand il n'a pas été vers les pharisiens et le monde institué religieux, mais il s'est tourné vers les pauvres, pour tous ceux qui avaient faim et soif, en quelque sorte. Parce que je voudrais quand même ajouter ceci, c'est que les mages, ils croient, les autres ne croient plus, ou ils ne croient pas, c'est fini. Et ils vont croire sans l'avoir vu encore. Qu'est-ce que c'est d'aller faire un tel voyage pour aller voir un petit bébé quelconque qui n'a rien de différent des autres? Et là, ils sentent dans leur cœur que ce n'est pas un bébé normal. Bien qu'il ait la normalité totale et complète de l'humanité. Mais une chose qui est certaine, c'est que ça brûle à l'intérieur. Et nous-mêmes, lorsque peut-être nous avons entendu le témoignage qui nous a amenés au Seigneur, que nous avons entendu une prédication, que nous avons lu la Bible, il y a quelque chose, un feu qui s'est allumé à l'intérieur de nous-mêmes. Et les mages avaient ça dans leur cœur. Et c'était des étrangers, des gens qui n'avaient rien à voir avec, finalement, eh bien, la connaissance que pouvaient avoir les Juifs. Les Juifs connaissaient, les autres étaient ignorants, mais il y avait quelque chose à l'intérieur. Et c'est de l'intérieur que ça se passe. C'est pas à l'extérieur. La religion a tout mis à l'extérieur. Tout ce qui brille, tout ce qui se voit, tout ce qui se sent. C'est les sens, c'est la sensibilité, c'est l'âme. Mais Jésus nous parle par l'esprit, et c'est à l'intérieur de nous-mêmes. « Je ne te laisserai aller, dit Jacob, que tu ne m'aies béni. » Parce que c'est le feu qui brûle à l'intérieur de nous-mêmes. Et les mages avaient cela pour eux. Donc ils vont croire sans l'avoir vu, sans savoir ce qu'ils vont faire, sans savoir ce qu'ils vont, où ils vont aller, naturellement. Et leur foi est une certitude. Je crois que dans les temps dans lesquels nous sommes, parce que ça va souffler fort à un moment donné, hein, permettez-moi de le dire, il faut des certitudes dans notre cœur. Autrement, tout ça, ça ne va pas rester. Vous savez, ce n'est pas tant de venir à l'Église, bien que l'Église ait sa raison d'être. Et je ne veux pas dire le contraire. Mais moi, je dis que c'est d'avoir et de garder Jésus en première place dans notre vie, dans notre cœur. Peut-être qu'on n'aura plus d'église d'ici quelque temps. Hein. Vous savez, on entend beaucoup de bruits qui se font entendre de plus en plus. Ça s'appelle persécution. Alors bon, on voit ça de loin parce que bon, on n'est pas sur le terrain. Mais ça peut venir aussi chez nous parce que la France a quand même payé très cher en persécution au moment de la réforme. Enfin, en ce qui concerne les protestants, en tous les cas. Très cher. Beaucoup de sang et de feu. Alors, il faut avoir des serviteurs. Parce que le savoir de l'Écriture qui nous est donné est une chose. Y croire encore en est une autre. Et une chose que quelqu'un a dite, c'est que la connaissance sans y croire tue l'action. C'est-à-dire qu'on ne fait plus rien. On reste à Jérusalem, on reste dans le palais, on est entre soi dans notre petite société bien douillette et tout ce que vous voulez, mais si on n'y croit plus, ça ne sert à rien. Je crois que c'est Paul qui dira à un moment donné dans 2 Timothée 3,7 « Il ne cesse d'apprendre, il ne cesse d'avoir la connaissance, mais finalement, eh bien, ça ne sert à rien, puisqu'ils finalement, ils n'en font rien, si tu ne mets pas en pratique ce que tu sais, naturellement. » Ils avaient, ces mages, une saine curiosité. Il y en a des mauvaises curiosités. Et on en est environné tous les jours, naturellement. Mais ils avaient cette saine curiosité, ils avaient faim, ils avaient soif de vérité. Et ça, ça nous fait marcher. Et si nous revenons, finalement, eh bien, à l'écoute de la parole de Dieu, si nous nous plaisons dans ce que nous connaissons de Jésus, eh bien, quelque part, ça nous pousse en avant. Et alors que les autres sont restés dans leur siège et dans leur festin et sur, voilà, dans la situation, eh bien, là, ils étaient sur la route, hein, les mages. Et ça ne devait pas certainement être facile, parce que, sans le savoir, ils allaient vers Jésus, ils allaient vers lui, et ils voulaient s'engager pour lui. Ça, c'est une chose qui est à souligner. J'ajouterais que l'orgueil et l'arrogance des grands et des puissants, en ce temps-là, ont raté le rendez-vous avec celui qu'ils prétendaient connaître, alors qu'ils ignoraient qu'il était si proche, en distance, et si éloigné dans leur cœur. Eh oui, je vous dis ça parce que c'est quand même assez intéressant. Tout est une affaire d'orgueil et une affaire d'arrogance de tout ce monde-là. Et ils ne savaient pas qu'ils avaient raté, eh bien, le rendez-vous, alors qu'ils prétendaient le connaître. Ils avaient des prophètes, ils avaient des textes, ils avaient toutes sortes de choses, et ils ne se sont même pas aperçus qu'il était près d'eux. Et peut-être quelquefois, et je vais le dire tout à l'heure en donnant un exemple, que quelquefois Dieu est plus près de nous que nous le pensons. Et on le cherche, et on le cherche encore, et on le cherche, et on remet toutes sortes de choses. Mais est-ce que nous aurions oublié que depuis que Jésus est venu, il nous a envoyé son Saint-Esprit, et que Dieu a fait de notre corps le temple du Saint-Esprit? Ne le cherchez pas, il est là. Regardez pas autour de vous, vous n'allez pas le voir. Ça, c'est sûr. Hein. Ne lui téléphonez pas, il ne répond pas. Bon. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il est là. Et quand il y a parfois des révélations, n'essayez pas d'aller voir un tel ou un tel pour donner ceci et cela, et spéculer sur ce que vous avez reçu. Le Seigneur va vous conduire. Si vous êtes honnête, si vous êtes dans la vérité, de vérité, alors à ce moment-là, vous allez savoir que examinez toute chose, retenez ce qui est bien et rejetez ce qui est mal. Parce que le Saint-Esprit est déjà là. Je te conduirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai les regards sur toi. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est ça, finalement, ce qui est important. Ouais. Il n'avait pas vu qu'il était tout proche dans le village d'à côté. Mais il était tout proche, sans le savoir, parce que leur cœur était fermé, tout simplement. Je n'hésite pas à relire ce beau texte, mais il est très court, hein, vous allez voir. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient. Alors, on nous a dit qu'ils étaient trois, moi je veux bien. Alors, on peut penser qu'ils étaient trois parce que chacun est venu avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Bon, voilà. Alors, mais peut-être qu'ils étaient plus sous. Mais les mages, hein, c'est indéfini. Des mages. Ils sont venus à Jérusalem et ils dirent, hein, en allant certainement au palais, où est le roi des Juifs qui est venu, qui vient de naître? Alors là, ça a dû certainement faire, excusez-moi l'expression, mais moustacher Hérode. Il a dû dire, mais dis donc, mais attendez, c'est moi le roi. Probablement. Car nous avons vu son étoile en Orient. Ça ne tient pas debout, une chose pareille. Moi, je pense que les savants et les docteurs de la loi ont dû dire, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent, ces gens-là? Ils sont tombés sur la tête. Ouais. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour, imaginez-vous, l'adorer. Ah, pour des orgueilleux. Je peux vous dire que quand vous parlez, ça fait une sacrée concurrence. Hein. Et là, c'est pas... Et puis alors après, vous lirez tout ce que vous voulez. Hein. Il y a tout le chapitre qui est donné, mais c'est pour montrer que ils sont venus de si loin pour l'adorer. C'est pas grand-chose adorer, mais c'est tout. C'est l'essentiel. C'est le principal. Faire tout ce voyage. Il y a des gens qui vont aux États-Unis pour un concert parce qu'ils adorent telle ou telle personne. Il y en a d'autres qui vont dans des sanctuaires religieux parce qu'ils veulent adorer. Enfin bon, voilà, ce que vous voulez. Et le monde ne vit que d'adoration d'une manière ou d'une autre. Mais quel adorateur sommes-nous? Est-ce que c'est en esprit, en vérité, la personne de Dieu à travers la personne de Jésus-Christ? Enfin, Dieu à travers la personne de Jésus-Christ pour l'adorer. Et j'ai cette pensée qui m'est venue dans la parabole. Enfin, plutôt, c'est pas une parabole. C'est une rencontre entre 10 lépreux et puis Jésus. Et vous savez qu'il y en a eu 9, 10 qui ont reçu la guérison. Pas de problème, tout le monde a été guéri. Parce qu'ils ont cru. C'est bien. Mais il n'y en a eu qu'un qui est revenu. Ah, c'est quand même assez curieux. Hein. Un qui est revenu, 9 qui ont tourné le dos. Et Jésus dira en conclusion, il dira, serait-ce que cet étranger, moi je le mets au pluriel puisque ce sont les mages, serait-ce que ces étrangers pour venir rendre un culte à Dieu? Ah ouais. Pendant des années, nous avions un stand à Angers, face à la mairie. C'était pas mal, c'était le bon temps à l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et on avait principalement des gens qui s'arrêtaient au stand de Bible, pas forcément des gens du pays, pas des Angevins ou des Français, mais beaucoup d'étrangers. Ils parlaient à peine. Et c'est vrai que j'ai toujours gardé ça. Quelquefois, on était attristés avec ceux qui servaient ensemble, on servait ensemble. Et on disait, mais ne serait-ce que ces étrangers pour rendre gloire à Dieu? Faut-il aller dans un pays qui est autrement que le nôtre, qui est différent du nôtre, pour découvrir le Seigneur? Moi, c'est ce qui m'est arrivé en Hollande. Hein. Parce que ce n'est pas les Français qui m'ont rendu témoignage. Hein. C'est une famille hollandaise. Voilà, Amsterdam. Et il a fallu que j'aille là-bas pour rencontrer le Seigneur. Et quelle aventure, hein. C'était quelque chose. Hein. Ah, c'est pas d'hier, hein. Ça c'est certain. Mais c'est comme ça que eh bien, les choses se sont passées. Alors, je crois que dans tout cela, eh bien, c'est intéressant de pouvoir faire le point. Et j'aimerais justement souligner les paradoxes du succès ou des défaites. Est-ce que vous vous rendez compte, hein ? Il y a les mages et puis il y a toute la population des Hébreux. Pour vous donner 3-4 exemples, simplement, quand il s'agit de la croissance, il y a la parabole du semeur. Il y a tout simplement un terrain fertile et 3 qui sont stériles. C'est pas le grand nombre, hein. C'est pas le nombre. Hein. Quand il s'agit de la souffrance, vous avez l'histoire de Bethesda avec l'homme qui était paralysé depuis 30 et quelques années, il me semble ça. 37 ans, je ne sais pas, peu importe. Il y a une foule d'infirmes qui sont au pied de Jésus, mais il n'y en a qu'un seul qui est guéri. C'est pour ça que ce n'est pas le grand nombre, hein, le royaume de Dieu. Hein. Vous avez également, c'est un, en quelque sorte, eh bien, il y a maintenant, troisième point, troisième exemple, c'est un miracle à demi. Parce que, voilà, on veut bien des grands miracles, mais on n'en prend que la moitié, on n'en prend qu'un petit morceau. Hein. Quand Pierre entend Jésus lui dire « Jetez vos filets », Pierre n'en jette qu'un seul. Qu'est-ce qui nous intimide dans cette affaire? Oui. Et puis, dans le texte que nous avons commenté déjà et que je vais finir maintenant à travers une conclusion, c'est que la bonne nouvelle qui nous est annoncée, c'était la naissance de l'enfant sauveur qui est là, venu parmi les hommes. Il y a un peuple nombreux de dizaines, de centaines, de milliers de personnes à Jérusalem et dans toute la Judée, les Juifs, mais seulement 3 mages étrangers qui accourent et qui l'adorent. Vous avez compris? J'étais clair? Eh bien, c'est ça, finalement. C'est ça le paradoxe, finalement, de l'Évangile. C'est que quelquefois, on s'attend que le monde entier, eh bien là, se courbe vers Jésus, mais c'est pas ça. Et c'est pas ceux qui sont les plus près qui viennent. Ce sont ceux qui sont les plus loin. Ceux qui ont quelque chose dans leur cœur et qui n'ont pas seulement dans leur tête, en guise de... je ne sais quoi, compensation, légende, conte et tout ce que vous voulez. Hein. Et vous savez, Jésus a dit une parole très pertinente quand il a dit ceci, « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. » Eh bien, nous avons l'image qui nous est présentée à travers la naissance de Jésus, la naissance qu'on appelle Noël aujourd'hui, hein, la naissance finalement de Jésus. Et ça, c'est la vérification. Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Faisons attention pour nous-mêmes qu'après avoir été premiers, nous finissions derniers. Non, bah, allez, qu'est-ce que vous voulez, hein ? Ce n'est pas une compétition d'athlétisme ou de course automobile, hein, ou cycliste, hein, ce n'est pas ça. Hein. C'est la manière dont nous gardons les choses. Dieu a fait des promesses, elles sont certaines et véritables. C'est le livre de l'Apocalypse qui nous le dit. Hein. Alors, continuons à croire, maintenons-nous, et moi je crois qu'il faut prier aussi. pour ceux qui sont auprès, s'ils n'en veulent pas, les Nazériens et puis les gens de la Loire Atlantique ou notre peuple français qui n'en veut plus, enfin bon, voilà, ils ont certainement bien des raisons de plus en vouloir parce que la religion les a souvent gavés, excusez-moi. Hein. Mais une chose qui est certaine, demandons à Dieu qu'il nous envoie des hommes et des femmes, comme l'Éthiopien, par exemple. Vous connaissez l'histoire de l'Éthiopien dans le livre des Actes des Apôtres ? Eh oui, hein. Et puis il y a bien d'autres comme ça qui sont venus. La femme cananéenne qui habitait Tyre et Sidon, voilà, c'était aussi une étrangère. Et il y en a eu d'autres comme ça. La Samaritaine, mais c'était exactement la même chose. Et quand je vous ai dit que ça touche la croissance, la souffrance, le miracle ou la bonne nouvelle, c'est toujours divisé par trois, c'est toujours divisé par deux, ou quelquefois il ne remplace plus qu'un seul. Dans votre propre famille, peut-être que vous êtes le seul à être converti. Est-ce que vous aimeriez que vous priez pour que toute la famille soit convertie ? Ouais, mais ne vous découragez pas. Parce que ce que vous ne pouvez pas dire, ne le dites pas. Vous ne pouvez pas le dire de toute façon. Mais vivez ce que vous avez à vivre de votre foi et de votre christianisme. Et ça ne leur échappera pas. Rassurez-vous. Je termine. Le prophète Jérémie rapporte les paroles relatives à la présence de Dieu. Vous savez que Dieu est omniscient, il est omniprésent, il est omnipuissant. Omni, ça veut dire tout. Voilà, il sait tout. Ou il peut tout, et il connaît tout. Alors, la présence de Dieu, de près comme de loin. Et il dit quelque chose, parce que c'est Dieu qui lui met dans la bouche au prophète, « Ne suis-je pas Dieu ? Ne suis-je Dieu que de près ?» Ça, c'est les Juifs. Et ne suis-je pas aussi un dieu de loin, les mages ? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu secret, un lieu caché, sans que je ne le voie ? Dieu a des yeux, Dieu a des oreilles, Dieu a fait des yeux et il a fait des oreilles. Donc, de ce côté-là, on est doté. Hein. Le Noël pourrait se résumer par ces déclarations, dont j'ai cité le nom tout à l'heure, « Certainement l'Éternel était en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Vous savez de qui ça vient ? C'est Jacob, à Bethel. Il est là, il fait un sacrifice, selon naturellement les rites de son temps, à Bethel. Et là, à un moment donné, il va trembler. Il va être saisi d'une stupeur, d'une épouvante, et il dira mais Dieu était là, et moi je ne le savais pas. Eh bien moi je voudrais vous dire qu'à chaque fois que vous vous réunissez dans la communion fraternelle, ici ou ailleurs, et que c'est Jésus qui a l'honneur, qui a véritablement toute la place, mais le Seigneur est là. Il est là. Il n'y a aucun problème. Vous savez qu'il était là ce matin ? Oh, qu'est-ce que j'ai dit ? Il est parti ? Vous réagissez là. Hein ? La nuit vient, Seigneur. Le ciel s'assombrit, mais reste avec nous. Vous connaissez ça aussi, hein ? Dans Luc, je crois, les disciples d'Emmaüs, reste avec nous, Seigneur. Oui, reste avec nous. Alors, c'est ici la maison de Dieu, dira Jacob. Il est venu annoncer la paix, parce que le mot Noël, ça rime avec le mot paix. Il est venu annoncer la paix à vous, qui étiez au loin, et à vous, qui étiez tout près, auprès. C'est dans 2 Éphésiens, chapitre 2. Pour finir, dans Ésaïe 54, il est dit ceci, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. » Eh oui, parce que n'oubliez pas que les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Et je voudrais vous donner une dernière anecdote, si vous voulez, pour terminer. Ce sera votre petit cadeau. Il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas de bolduc, mais il vient de mon cœur. Voilà. Il y a deux hommes qui sont incarcérés et qui regardent par la fenêtre de leur prison. Ah, ils ont que ça à faire. Hein. Alors ils regardent. L'un voit que les barreaux. Parce que normalement, on met des barreaux aux fenêtres hein, quand c'est ce genre d'établissement. Hein. Parce qu'il y a des idées qui peuvent gamberger, hein, naturellement. Donc, le premier voit que des barreaux et l'autre voit les étoiles. Il ne regarde pas les barreaux, il passe au-dessus des barreaux. Et vous savez qu'il y a une belle illustration de ce que Jésus est venu nous annoncer la bonne nouvelle. Les captifs trouveront la liberté. ils seront rendus libres. Ouais. L'un voit les barreaux qui les retient dans le péché, qui les retient dans le mal, qui les retient dans la souffrance et dans toutes les circonstances qui sont le propre de notre vie, c'est-à-dire le mal, le péché, toutes sortes de choses, les barreaux, avec l'enfermement qui va avec. Et puis, l'autre, il regarde et il voit les étoiles. Il faut parler d'étoiles, là, en ce moment, c'est le moment, hein, de quoi qu'il en soit. Hein. Voir de près, barreau, c'est de la cécité, de l'obscurité, c'est être prisonné. C'était le peuple juif à ce moment-là. Ils étaient dans cette situation. Ils ne le savaient pas. Ils avaient le remède, leur Messie, qui leur avait laissé des promesses de bienveillance et de bienfaisance. Et puis, il y a ceux qui voient de loin et qui voient la liberté. Ils sont déjà en quelque sorte libres parce qu'ils voient. Et ils ne regardent pas la terre, ils regardent au ciel. Et ils contemplent l'étoile du matin, la lumière. Et ils sont venus donc, pour cela, adorer Jésus. Eh oui, l'or, venu apporter dans l'adoration l'or, parce que Jésus est roi. Ils sont venus apporter également de l'encens, parce que Jésus est Dieu. Ils sont venus apporter de la myrrhe, parce que cet enfant allait mourir. Il allait être embaumé, mais il ne mourrait pas pour lui-même, il ne mourrait pas pour ses péchés, il mourrait pour les nôtres. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Que Dieu nous bénisse ce matin et que Dieu nous donne sa grâce. Né de la poussière et de l'éternité, j'ai vu la lumière et elle m'a racheté. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Quel beau cadeau que tu nous as fait. C'est vrai, Seigneur. Je n'en mesure même pas, en effet, toute la valeur, toute l'immensité, toute la gravité, toute la beauté, Seigneur. Mais néanmoins, nous pouvons dire chacun d'entre nous, un jour, tu nous as appelés et tu nous as rendus capables de croire à cette bonne nouvelle. Autrement, nous n'aurions jamais pu faire la route. Et nous te bénissons. Merci parce que Jésus est l'étoile brillante du matin. Tu bénis mes frères et mes sœurs. Tu les rassures. Parce que tu nous as rappelé, en effet, que le plan de Dieu, eh bien, aura son aboutissement, certainement. Et nous te louons et nous te bénissons. Parce que nous ne pouvons nous réjouir. Nous avons un Père dans les cieux, notre Père qui est aux cieux. Et nous sommes des fils et des filles. Et nous avons devant nous, pour les temps à venir, les temps éternels, un formidable héritage. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse les uns et les autres.